Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 18 mars 1871, et la Commune fut. Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Très vite, les défaites se succèdent. L'empereur est capturé à Sedan le 2 septembre, la Troisième République est proclamée à Paris 2 jours plus tard. Après une résistance héroïque, le gouvernement de la Défense nationale signe l'armistice le 28 janvier 1871. Refusé par le peuple parisien, il accroît la tension entre le gouvernement officiel, dirigé par Adolphe Thiers, et les forces révolutionnaires qui, le 18 mars, constituent un gouvernement insurrectionnel, la Commune de Paris. Après le transfert de l'Assemblée nationale à Versailles, le 10 mars, Thiers décide de récupérer les pièces d'artillerie regroupées à Montmartre. Il souhaite également occuper militairement la capitale. C'est donc par une histoire de canon que débute la Commune. En effet, la garde nationale possède 227 canons, dont 200 ont été fondus durant le siège de Paris par les troupes prussiennes, grâce à des souscriptions privées. Quand les Allemands occupent partiellement la capitale durant 48 heures au début de février 1871, les Parisiens s'empressent de les mettre en lieu sûr, hors de la zone d'occupation, au sommet de la butte Montmartre. Les canons sont désormais sous la garde du peuple, organisés en fédération. Le 8 mars, les troupes régulières tentent de reprendre le parc d'artillerie détenu par la garde nationale. L'opération échoue. Le comité central de la fédération lance à l'armée gouvernementale ce manifeste révolutionnaire. Soldats, enfants du peuple, les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée en suscitant la guerre civile. Le peuple de Paris veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux. Plus d'armée permanente, mais la nation tout entière armée. Le 15 mars, Thiers s'installe à Paris. Il ne peut tolérer semblable appel à la désertion. Le conflit entre les deux pouvoirs, celui des fédérés et celui du gouvernement légitime de la France, est inévitable. Au matin du 18 mars, les murs de la capitale sont couverts d'une affiche gouvernementale proclamant « Habitants de Paris depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans nos murs se sont constitués maîtres d'une partie de la ville. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiat, inaltérable. Pour récupérer les précieux canons, Thiers sollicite la force armée. Les Montmartrois sont réveillés à l'aube du 18 mars par le pas cadencé des fantassins de l'infanterie de ligne. Bientôt, toute la colline est tenue par la troupe. Au centre du dispositif militaire, le général Lecomte, avec le 18e bataillon de chasseurs et le 88e bataillon de marche, parvient au sommet de la butte Montmartre. Il bouscule les fédérés de garde et pénètre dans le parc d'artillerie. Là, il attend les attelages nécessaires à l'enlèvement des pièces qui tardent près de 4 heures. Les ménagères et les filles des hôtels meublés apparaissent dans les rues. Elles s'infiltrent dans les rangs de l'armée, proposant aux soldats de boire un verre avec elles. Le tocsin se fait entendre. Les unités de la garde nationale se rassemblent. Place Saint-Pierre apparaît un premier groupe de fédérés accompagné de quelques soldats déserteurs. Le général Lecomte fait croiser les baïonnettes. Les gardes nationaux avancent, menaçant, brandissant leurs fusils chasse-peau. Le feu est ordonné. La troupe refuse de tirer sur le peuple. La foule se précipite, embrasse les soldats et les entraîne vers les comptoirs des marchands de vin qui ouvrent leurs portes. Le général Lecomte est traîné vers l'auberge du Château Rouge, un ancien bal de la rue de Clignancourt devenu le quartier général des fédérés. Là, il signe l'évacuation du quartier. Il est bientôt rejoint par un vieux général à la grande barbe blanche, le septuagénaire Clément Thomas, qui en juin 1848 avait commandé de charger la canaille. Au milieu de l'après-midi, les deux généraux sont exécutés. L'insurrection s'étend, les fédérés élèvent des barricades Faubourg Saint-Antoine et à Ménilmontant. Ils occupent le palais du Luxembourg où l'infanterie de ligne fraternise avec la population parisienne et marche sur l'hôtel de ville. Au ministère des Affaires étrangères, Thiers s'affole. Il replie le gouvernement à Versailles. La commune est proclamée. Le peuple de Paris se rassemble en liesse sur le parvis de l'hôtel de ville. Il crie sa joie, chante, danse et s'embrasse. Il se réjouit d'apprendre la création de communes insurrectionnelles, en particulier à Lyon, Marseille, Narbonne, Toulon et Limoges. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres. C'est Serge Lama qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1980, Souvenir, attention, danger.
J'ai trouvé dans un cahier bleu d'écolier un vieux poème à l'encre un peu délavé, des mots d'amour, couleur d'enfance et soudain un prénom qui ne me dit rien. Petite fille aux yeux si purs, mon amour, tablier rouge sur l'azur des beaux jours, le drapeau rouge sur la plage élevé, souvenir, attention, danger. Là-bas, Marie-Louise coupe le bois, là-bas, la résine embaume les toits, là-bas, le ciel est gris mais il fait beau quand même. Vagues joufflues là-bas, traînent des prénoms disparus là-bas, le vent sous la dune a le cœur ému. Vieille plume, sergent-major, mon ami, tes mots brillent comme de l'or dans la nuit, accrochant une balançoire au jardin, prénom qui ne me dit rien. Elle est tombée dans le fossé, elle pleure, je lui donnerai un baiser tout à l'heure. Dans le hangar, sous le camion bien caché, souvenir, attention, danger. Là-bas, Marie-Louise a les reins brisés, là-bas, la terre est dure à faire chanter, là-bas, les jours sont gris mais on est gai quand même. Là-bas, l'écume des vagues d'hier, là-bas, blanchit les cheveux de la mer, là-bas, le vent sur la dune à l'humeur ramène. Une feuille de marronnier oubliée, entre deux feuilles de papier quadrillé, un buvard, une tache d'encre, et soudain un prénom couleur de chagrin. Petite fille aux yeux si purs, cheveux blonds, les années ont dressé un mur en béton. Sous le pont de tes jambes, un autre est passé, souvenir, attention, danger. là-bas, Marie-Louise et le vieux cheval, là-bas, lise mon nom dans le journal, là-bas, je vis loin d'eux mais je suivrai quand même. Là-bas, de vagues belles en vagues bleues, là-bas, l'océan fait les gens heureux, là-bas, le vent sur la dune, elle est là, mon Dieu. Dans ce cahier bleu, j'ai puisé l'émotion qui m'a aidé à composer ma chanson. Désormais, je serai partout étranger. Souvenir, attention, danger.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire préparée par Emmanuel qui nous propose quatre livres aujourd'hui. Pour commencer, Les abeilles d'hiver, c'est signé Norbert Scherer, c'est aux éditions Actes Sud. En janvier 1944, bombardiers anglais et américains sillonnent le ciel de l'Eifel à la frontière de l'Allemagne et de la Belgique. Dans son jardin, Egidius Harimon, un professeur de latin et d'histoire révoqué par les nazis en raison de son épilepsie, observe le ballet des abeilles d'hiver. Quand il n'en prend pas soin, l'apiculteur trompe dangereusement son ennui avec des femmes du village dont les maris sont au front. D'autres nuits, il brave tous les risques et dans des ruches spécialement aménagées, fait passer des juifs de l'autre côté de la frontière. Un matin, la Gestapo vient le chercher. Les abeilles d'hiver, c'est signé Norbert Scherer, c'est publié aux éditions Actes Sud. Aux éditions Liana Lévy, Abir Mukherjee signe avec la permission de Gandhi. Nous sommes en décembre 1921, le Raj tremble. Le Raj, c'est le contrôle, le régime colonial britannique qui s'impose en Inde de 1858 à 1947. Un certain Gandhi prône la désobéissance civile et des foules de manifestants pacifiques mais déterminés s'apprêtent à envahir les rues de Calcutta. Comment éviter que l'élégant prince de Galles, en visite officielle, ne soit pas témoin de la révolte qui gronde ? C'est à cette situation inédite que la police impériale est appelée à se mesurer, alors que dans la région, des meurtres inexplicables se multiplient. Au capitaine Vindham et au sergent Barnaby de régler ces difficultés. Avec la permission de Gandhi, d'Abir Mukherjee, c'est publié aux éditions Liana Lévy. Aux éditions Noir sur Blanc, Monica Snajderman publie « Faux poivre, histoire d'une famille polonaise ». Pendant des années, Monica Snajderman a connu le poids du silence. Son père n'avait jamais voulu parler de sa famille, de son odyssée à travers les camps, de sa fuite et de son retour à Varsovie. Jusqu'à ce que des photos lui parviennent d'Australie, envoyées par des parents dont elle ne connaissait même pas l'existence. L'auteur reconstitue le destin de ses aïeux juifs, trouvant des traces de leur existence dans les journaux, les archives, d'infimes indices éparpillés entre le ghetto de Varsovie, Radom, et jusqu'à l'Amérique et l'Australie. Elle présente avec le même soin les parents et ancêtres de sa mère, issus d'une pittoresque famille de la noblesse polonaise, polono-saxonne pour être précis. Leur histoire se déroule à Varsovie, à Moscou, en Volhynie, sur les domaines et dans les grandes villes que bouleversaient les années folles. Faux poivre, histoire d'une famille polonaise, c'est signé Monika Schnasdermann aux éditions Noir sur Blanc. Et pour finir cette chronique, Une maison sur l'eau d'Emuna Elon aux éditions Albin Michel. Yoel Blum, célèbre auteur israélien, se rend à Amsterdam, sa ville natale, pour assurer la promotion de son nouveau roman, et ce, en dépit de la promesse qu'il avait faite à sa mère de ne jamais y retourner. En visite au musée historique juif, il voit un film d'archives où apparaît sa mère tenant un bébé qu'il ne reconnaît pas. Qui peut bien être cet enfant et pourquoi sa mère, aujourd'hui morte, ne lui en a-t-elle jamais parlé ? Voilà la question qui sous-tend ce premier roman d'Emuna Elon, Une maison sur l'eau, publié aux éditions Albin Michel. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Et nous nous séparons en chanson avec Serge Lama. Nous écoutons l'un de ses premiers succès. C'était en 1973, Les petites femmes de Pigalle.
Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit cours, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir, par hasard, j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis cocu, mais content.
Thank you.